Les mémoires d'un âne par la comtesse de Ségur, quatrième cassette, deuxième face, page 133. Où sont les dragées? Demanda Pierre à Camille.
Dans un grand panier qu'on emportera à l'église. On laissera ici les boîtes et les paquets, tout est prêt. Viens voir combien il y en a.
Ils coururent à l'antichambre où tout était préparé. Et pourquoi faire toutes ces pièces de 20 centimes? Il y en a presque autant que de dragées.
C'est pour jeter aux enfants de l'école.
Comment aux enfants de l'école? Nous irons donc à l'école après le baptême?
Mais non, c'est pour jeter à la porte de l'église. Tous les enfants du village sont rassemblés et on jette en l'air des poignées de dragées et de pièces. Ils les attrapent ou les ramassent par terre.
Est-ce que tu as déjà vu jeter des dragées?
Non, jamais, mais on dit que c'est très amusant.
Je crois que je n'aimerais pas cela. Bien certainement, ils se battent, ils se font mal. Et puis, je n'aime pas qu'on jette les dragées aux enfants comme à des chiens.
Camille, Pierre, venez, voici l'enfant qui arrive. On va bientôt partir, s'écria Madeleine qui arrivait tout essoufflée.
Tous partirent en courant pour aller au-devant de l'enfant. Oh, que notre filleule est belle, dit Pierre.
Je crois bien, elle a une robe brodée tout autour. Un bonnet de dentelle, un manteau doublé de soie rose.
Et c'est toi qui as donné tout cela?
Oh non, je n'avais pas assez d'argent. C'est maman qui a tout payé, excepté le bonnet que j'ai acheté de mon argent.
Tout le monde était frais. Quoiqu'il fît très beau temps, la calèche était attelée. La calèche, c'est une belle voiture avec des chevaux pour la tirer. La calèche était attelée pour mener l'enfant avec sa nourrice, le parrain et la marraine. Camille et Pierre étaient fiers de se trouver comme de grandes personnes, tout seuls dans la voiture. Ils partirent. Moi, j'attendais, attelé à la petite voiture des enfants, la voiture à âne. Louis, Henriette, Jacques et Jeanne montèrent dedans. Madeleine et Elisabeth se mirent devant pour mener, et Henri grimpa derrière. Les mamans, les papas et les bonnes étaient partis les uns après les autres pour se trouver près de nous en cas d'accident. Mais ce n'était que par excès de prudence, car avec moi, ils savaient qu'il n'y avait rien à craindre. Je partis au galop, malgré la charge que je traînais. Mon amour-propre me poussait à atteindre et même à dépasser la calèche. J'allais comme le vent. Les enfants étaient enchantés.
Bravo!
Bravo! Courage, Cadichon!
Oh, encore un temps de galop!
Vive Cadichon, le roi des arbres! Ils battaient des mains, ils applaudissaient.
Bravo!
Bravo! Criaient les personnages que je dépassais sur la route. En voilà-t-il un âne, il court tout comme un cheval. Allons, hardi, bonne chance et pas de culbute. Les papas et les mamans qui étaient échelonnés le long du chemin n'étaient pas très rassurés. Ils voulurent me faire ralentir, mais je ne les écoutais pas et je n'en galopais que mieux. Je ne tardais pas à rattraper la calèche. Je passais triomphalement devant les chevaux qui me regardaient avec surprise. Se trouvant humiliés, eux qui étaient partis avant, d'être dépassés par un âne, ils voulurent aussi se mettre au galop. Mais le cocher les retint et ils furent obligés de ralentir leurs pas. Tandis que j'allongeais le mien. Quand la calèche arrêta à la porte de l'église, tous mes petits maîtres et maîtresses étaient déjà descendus de voiture à âne, et moi je m'étais rangé le long d'une haie pour avoir de l'ombre. J'avais chaud, j'étais essoufflé. À mesure que les parents arrivaient, ils admiraient ma vitesse et ils faisaient compliments aux enfants sur leur équipage. Le fait est que nous faisions un bon effet, ma voiture et moi. J'étais bien brossé, bien peigné. Mon harnais était ciré, verni, il était semé de pompons rouges. On m'avait mis des dahlias panachés, rouges et blancs au-dessus des oreilles. La voiture était brossée, vernie, nous avions très bon air. J'entendis par la fenêtre ouverte la cérémonie du baptême. L'enfant cria comme si on l'égorgeait. Ouin! Camille et Pierre, un peu embarrassés de leur grandeur, s'embrouillèrent en disant le « je crois en Dieu ». Le curé fut obligé de le souffler. Je jetai un coup d'œil à la fenêtre. Je vis la pauvre marraine et le malheureux parrain, rouges comme des cerises et les larmes dans les yeux. Pourtant, ce qui leur arrivait était bien naturel et arrive à bien des grandes personnes. Mais je trouve quand même qu'ils auraient dû mieux apprendre leur prière. Quand la petite Marie-Camille fut baptisée, on sortit de l'église pour jeter aux enfants qui attendaient à la porte les dragées et les pièces de 20 centimes. Aussitôt que le parrain et la marraine parurent, les enfants crièrent tous ensemble
« Vive le parrain ! Vive la marraine !»
Le panier de dragées était prêt. On l'apporta à Camille pendant qu'on donnait à Pierre le panier de monnaie. Camille prit une poignée de dragées et la fit retomber en pluie sur les enfants. Là commença une véritable bataille, une vraie scène de chiens affamés. Les enfants se disputaient les dragées et les pièces de 20 centimes. Tous se précipitaient vers le même point. Ils s'arrachaient les cheveux, ils se battaient, ils se roulaient par terre. Ils se disputaient chaque dragée et chaque pièce. Il y en eut la moitié de perdus, foulés aux pieds, disparus dans l'herbe. Pierre ne riait pas. Camille, qui avait ri aux premières poignées, ne riait plus. Elle voyait que les batailles étaient sérieuses, que plusieurs enfants pleuraient, que d'autres avaient la figure égratignée. Quand ils furent remontés en voiture...
« Tu avais raison, Pierre, dit Camille. La prochaine fois que je serai marraine, je donnerai les dragées à tous les enfants, et je ne les jetterai pas. »«
Ni moi les pièces de 20 centimes, dit Pierre. Je les donnerai comme toi. » La voiture partit, je n'entendis pas la suite de leur conversation. Les miens remontèrent dans mon équipage, mais cette fois les papas et les mamans voulurent nous accompagner.
Cadichon a produit son effet, dit la maman de Camille. Il peut revenir plus sagement, ce qui nous permettra de faire la route avec vous. Maman, dit Madeleine, est-ce que vous aimez cet usage de jeter aux enfants des dragées et des pièces de monnaie? Non, ma chère enfant, je trouve cela ignoble. Les enfants deviennent semblables à des chiens qui se battent pour un os. Si jamais je suis marraine en ce pays-ci, je ferai donner des dragées et je ferai porter aux pauvres l'argent qu'on dépense en pièces perdu en grande partie. Vous avez bien raison, maman, dit Madeleine. Sachez, je vous en prie, que je sois aussi marraine pour faire comme vous dites. Pour être marraine, dit la maman en souriant, il faut avoir un enfant à baptiser et je n'en connais pas. C'est ennuyeux. J'aurais été marraine avec Henri. Comment nommeras-tu ton filleul Henri?
Bah, Henri, bien sûr. Et toi?
Je l'appellerai Madelon.
Quelle horreur, Madelon! D'abord, ça n'est pas un nom.
C'est un nom tout comme Pierrette.
Pierrette est plus jolie. Et puis, tu vois bien que Pierre a cédé.
Je pourrais bien céder aussi, dit Madeleine en riant. Mais nous avons le temps d'y penser.
Nous arrivions au château. Chacun descendit de voiture et alla défaire sa belle toilette. On m'enleva aussi mes pompons, mes dahlias, et je revins brouter mon herbe pendant que les enfants mangeaient leur goûter. Chapitre 19. L'âne savant. Un jour, je vis accourir les enfants dans le pré où je manquais tranquillement, tout près du château. Louis et Jacques jouaient auprès de moi et s'amusaient à monter lestement sur mon dos. Ils croyaient être agiles comme des faiseurs de tours. Et ils étaient, je dois l'avouer, un peu pâteaux, surtout le bon petit Jacques, gros, joufflu, plus trapu et plus petit que son cousin. Louis parvenait quelquefois, en s'accrochant à ma queue, à grimper, il disait s'élancer, sur mon dos. Jacques faisait des efforts prodigieux pour y arriver à son tour. Mais ce bon petit gros roulait, tombait, soufflait et ne pouvait y arriver qu'avec l'aide de son cousin, un peu plus âgé que lui. Pour leur épargner une si grande fatigue, je m'étais placé près d'une petite butte de terre. Louis avait déjà montré son agilité. Jacques venait de se placer sans grand effort lorsque nous entendîmes accourir la bande joyeuse. « Jacques, Louis » criait-il, « nous allons bien nous amuser. Nous allons à la foire après-demain et nous verrons un âne savant. » « Un âne savant ? Qu'est-ce que c'est qu'un âne savant ? Demanda Jacques.
C'est un âne qui fait toutes sortes de tours, dit Élisabeth.
Quels tours ?
Des tours, mais des tours, des tours, enfin, dit Madeleine.
Oh, il ne fera jamais comme Cadichon, répondit Jacques. Bon, Cadichon, dit Henri, il est très bon et très intelligent pour un âne, mais il ne saurait pas faire ce que fera l'âne savant de la foire.
Je suis bien sûr que si on lui montrait, il le ferait, dit Camille.
Voyons d'abord ce que fait cet âne savant, dit Pierre. Nous verrons après s'il est plus savant que Cadichon.
Pierre a raison. Attendons jusqu'après la foire, dit Camille. Eh bien, qu'est-ce que nous ferons après la foire, demanda Élisabeth. Nous nous disputerons, dit Madeleine en riant.
Jacques et Louis gardaient le silence depuis qu'ils s'étaient dit quelques mots à l'oreille. Ils laissèrent partir les enfants. Après s'être assurés qu'on ne pouvait ni les voir ni les entendre, ils se mirent à danser autour de moi en riant et en chantant. Cadichon, Cadichon, à la foire tu viendras, l'âne savant tu verras, ce qu'il fait tu regarderas. Puis comme lui tu feras, tout le monde t'honorera, tout le monde t'applaudira, et nous serons fiers de toi. Cadichon, Cadichon, je t'en prie, distingue-toi. C'est très joli ce que nous chantons, dit Jacques en s'arrêtant tout à coup. C'est que ce sont des vers, répondit Louis. Je crois bien que c'est joli. Des vers, dit Jacques. Je croyais que c'était difficile de faire des vers. Très facile, comme tu vois. Pas difficile, comme tu crois, s'écria Louis. Vois-tu, en voilà encore. Oh, courons le dire à mes cousines et cousins, s'écria Jacques. Non, 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 dit Louis. S'ils entendaient nos vers, ils devineraient ce que nous voulons faire. Il faudra les surprendre à la foire même. Mais crois-tu, demanda Jacques, que papa et mon oncle voudront bien nous laisser emmener Cadichon à la foire ? Certainement, dit Louis, quand nous leur aurons dit en secret pourquoi nous voulons faire voir l'âne savant à Cadichon. Alors allons vite le leur demander. Les voilà courant tous deux vers la maison. Les papas venaient tout justement au pré voir ce que faisaient les enfants. « Papa, papa !» crièrent-ils. « Venez vite, nous avons quelque chose à vous demander. »«
Parlez, enfants, que voulez-vous »
« Pas ici, papa, pas ici » dirent-ils d'un air mystérieux, chacun tirant son papa dans le pré.
« Mais qui y a-t-il donc ?» dit en riant le papa de Louis. « Dans quelle conspiration voulez-vous nous entraîner ?»«
Chut, papa, chut, dit Louis. Voilà ce que c'est. Vous savez qu'après-demain, il y aura un âne savant à la foire.
Non, je ne le savais pas. Mais qu'avons-nous à faire d'âne savant, nous qui avons Cadichon ?
Voilà précisément ce que nous disons, papa, que Cadichon est plus savant que tous. Mes sœurs, mes cousins et cousines iront à la foire pour voir cet âne. Et nous voudrions bien y mener Cadichon, pour qu'il voit comment fait l'âne et qu'il fasse de même.
Comment ? Vous mettriez Cadichon dans la foule à regarder l'âne ?
Oui, papa. Au lieu d'aller en voiture, nous monterions Cadichon et nous nous mettrions tout près du cercle où l'âne savant ferait ses tours.
Oh, je ne demande pas mieux, moi, dit le papa de Jacques. Mais je ne crois pas que Cadichon apprenne grand-chose en une seule leçon.
N'est-ce pas, Cadichon, que tu sauras faire aussi bien que cet imbécile d'âne savant ? Me demanda Jacques. En m'adressant cette question, il me regardait d'un air si inquiet que je m'ai mis à braire pour le rassurer, tout en riant de son inquiétude. Oh, oh, oh ! Entendez-vous, papa ? Cadichon dit oui ! S'écria Jacques avec triomphe. Les deux papas se mirent à rire, embrassèrent chacun leur gentil petit garçon, et s'en allèrent en promettant que j'irais à la foire et qu'ils y viendraient avec les enfants et avec moi. Ah, me disais-je en moi-même, ils doutent de mon adresse. C'est étonnant que les enfants aient plus d'intelligence que les papas. Le jour de la foire arriva. Une heure avant le départ, on fit ma toilette bien à fond. On m'étrilla, on me brossa jusqu'à m'impatienter, on me mit une selle et une bride toute neuve. Louis et Jacques demandèrent à partir un peu en avant pour ne pas arriver en retard. Pourquoi irez-vous en avant ? Demanda Henri. Et comment irez-vous ? Nous irons sur Cadichon, dit Louis, et nous partons devant parce que nous n'irons pas vite. Vous irez tous les deux seuls ? Demanda Henri. Non, dit Jacques, papa et mon oncle viennent avec nous. Oh, ce sera joliment ennuyeux de faire une lieue, c'est-à-dire 4 kilomètres, au pas, dit Henri. Oh, nous ne nous ennuierons pas avec nos papas, dit Louis. Ah ben, j'aime encore mieux aller en voiture, répondit Henri. Nous serons arrivés bien avant vous. Non, dit Jacques, puisque nous partirons longtemps avant vous. Comme il finissait de parler, on m'amena tout scellé et tout pomponné. Les papas étaient prêts, ils placèrent les petits garçons sur mon dos et je partis doucement pour ne pas faire courir les pauvres papas. Une heure après, nous arrivions au champ de foire. Il y avait déjà beaucoup de monde près du cercle indiqué par une porte. Les papas de mes petits amis les firent placer avec moi tout près de la corde. Les autres maîtres et maîtresses nous rejoignirent bientôt et se placèrent près de nous. Un roulement de tambour annonça que nos savants confrères allaient paraître. Bedodum, 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 ran, plan, plan. Tous les yeux étaient fixés sur la barrière. Elle s'ouvrit enfin et l'âme savant parut. Il était maigre, chétif. Il avait l'air triste et malheureux. Son maître l'appela, il approcha sans empressement et même avec un air de crainte. Je vis bien d'après cela que le pauvre animal avait été beaucoup battu pour apprendre ce qu'il savait. Messieurs et mesdames, dit le maître, j'ai l'honneur de vous présenter Mirliflor, le prince des ânes. Cet âne, messieurs et mesdames, n'est pas si âne que ses confrères. C'est un âne savant, plus savant que beaucoup d'entre vous. C'est l'âne par excellence qui n'a pas son pareil. Allons, Mirliflor, montrez ce que vous savez faire. Et d'abord, saluez ces messieurs et ces dames comme un âne bien élevé. J'étais orgueilleux. Ce discours me mit en colère. Je résolus de me venger avant la fin de la séance. Mirliflor avança de 3 pas et salua de la tête d'un air dolent. Va, Mirliflor, va porter ce bouquet à la plus jolie dame de la société. Je ris en voyant toutes les mains se tendre à moitié et s'apprêter à recevoir le bouquet. Mirliflor fit le tour du cercle et s'arrêta devant une grosse et laide femme que j'ai su depuis être la femme du maître. Mirliflor y déposa ses fleurs. Ce manque de goût m'indigna. Je sautai dans le cercle par-dessus la corde, à la grande surprise de l'assemblée. Je saluai gracieusement, devant, derrière, à droite, à gauche. Je marchai d'un pas résolu vers la grosse femme, je lui arrachai le bouquet et j'allai le déposer sur les genoux de Camille. Je retournai à ma place aux applaudissements de toute l'assemblée. Bravo ! Bravo ! Vive Cadichon ! Chacun se demandait ce que signifiait cette apparition. Quelques personnes crurent que c'était arrangé d'avance et qu'il y avait 2 ânes savants au lieu d'un. D'autres, qui me voyaient en compagnie de mes petits maîtres et qui me connaissaient, étaient ravis de mon intelligence. Le maître de Mirliflor, lui, semblait fort contrarié. Quant à Mirliflor, il paraissait indifférent à mon triomphe. Je commençais à croire qu'il était réellement bête, ce qui est assez rare parmi nous autres les ânes. Quand le silence fut rétabli, le maître appela de nouveau Mirliflor. Venez, Mirliflor, faites voir à ces messieurs et dames qu'après avoir su distinguer la beauté, vous savez aussi reconnaître la sottise. Prenez ce bonnet et posez-le sur la tête du plus sot de l'assemblée. Et il lui présenta un magnifique bonnet d'âne garni de sonnettes et de rubans de toutes couleurs. Mirliflor le prit entre ses dents et se dirigea vers un gros garçon rouge qui baissait d'avance la tête pour recevoir le bonnet. Il était facile de reconnaître à la ressemblance avec la grosse femme, si faussement proclamée la plus belle de la société, que ce gros garçon était le fils et le compère du maître. Voici, pensai-je, le moment de me venger des paroles insultantes de cet imbécile. Et avant qu'on eût songé à me retenir, je m'élançai encore dans l'arène, je courus à mon confrère, je lui arrachai le bonnet d'âne au moment où il le posait sur la tête du gros garçon. Et avant que le maître eût eu le temps de se reconnaître, je courus à lui, je mis mes pieds de devant sur ses épaules et je voulus placer le bonnet sur sa tête. Il me repoussa avec violence et il devint d'autant plus furieux que les rires mêlés d'applaudissements se furent entendre de tous les côtés. « Bravo l'âme ! Bravo l'âme » criait-on. « C'est lui qui est le vrai âme savant !» Enhardi par les applaudissements de la foule, je fis un nouvel effort pour le coiffer du bonnet d'âme. À mesure qu'il reculait, j'avançais et nous finîmes par une course ventre à terre. L'homme se sauvait à toutes jambes, moi courant après lui, ne pouvant parvenir à lui mettre le bonnet et ne voulant pourtant pas lui faire de mal. Enfin, j'eus l'adresse de sauter sur son dos en passant mes pieds de devant sur ses épaules et m'appuyant de tout mon poids sur lui, il tomba. Je profitai de sa chute pour enfoncer le bonnet sur sa tête et je l'enfonçai jusqu'au menton. Je le retirai immédiatement. L'homme se releva, mais n'y voyant pas clair et se sentant étourdi de sa chute, il se mit à tourner et à sauter. Et moi, pour compléter la farce, je me mis à l'imiter d'une façon grotesque, à tourner, à sauter comme lui. J'interrompais parfois cette burlesque imitation en allant lui braire dans l'oreille. En. Et puis je me mettais sur mes pieds derrière et je sautais comme lui, tantôt à côté, tantôt en face. Dépeindre les rires, les bravos, les trépignements joyeux de toute l'assemblée est impossible. Jamais âne au monde n'eut un pareil succès, un pareil triomphe. Le cercle fut envahi par des milliers de personnes qui voulaient me toucher, me caresser, me voir de près. Ceux qui me connaissaient en étaient fiers. Ils me nommaient à ceux qui ne me connaissaient pas. Ils racontaient une foule d'histoires, vraies et fausses, dans lesquelles je jouais un rôle magnifique. Une fois, disait-on, j'avais éteint un incendie en faisant marcher une pompe tout seul. J'étais monté à un troisième étage, j'avais ouvert la porte de ma maîtresse, je l'avais saisie endormie sur son lit, et comme les flammes avaient envahi tous les escaliers et fenêtres, je m'étais élancé du troisième étage après avoir eu soin de placer ma maîtresse sur mon dos. Ni elle ni moi ne nous étions blessés parce que l'ange gardien de ma maîtresse nous avait soutenus en l'air pour nous faire descendre à terre tout doucement. Une autre fois, disait un autre, j'avais tué à moi tout seul 50 brigands en les étranglant les uns après les autres d'un seul coup de dent, de manière qu'aucun d'eux n'eut le temps de se réveiller et de donner l'alarme à ses camarades. J'avais été ensuite délivré dans les cavernes 150 prisonniers que ces voleurs avaient enchaînés pour les engraisser et les manger. Une autre fois, enfin, j'avais battu à la course les meilleurs chevaux du pays et j'avais fait en 5 heures 25 lieues, c'est-à-dire 100 kilomètres, sans m'arrêter. À mesure que ces nouvelles se répandaient, l'admiration augmentait. On se pressait, on s'étouffait autour de moi. Les gendarmes furent obligés de faire écarter la foule. Heureusement que les parents de Louis, de Jacques et de tous mes autres maîtres avaient emmené les enfants dès que la foule s'était amassée autour de moi. J'eus beaucoup de peine à m'échapper, même avec le secours des gendarmes. On voulait me porter en triomphe. Je fus obligé, pour me soustraire à cet honneur, de donner par-ci par-là quelques coups de dents et même de décocher quelques ruades. Mais j'eus soin de ne blesser personne, c'était seulement pour faire peur et m'ouvrir un passage. Une fois débarrassé de la foule, je cherchai Louis et Jacques. Je ne les aperçus d'aucun côté. Je ne voulais pourtant pas que mes chers petits maîtres revinssent à pied jusque chez eux. Sans perdre mon temps à les chercher, je courus à l'écurie où l'on mettait toujours nos chevaux et nos harnais. J'y entrai et ne les y trouvai plus. On était parti. Alors, courant à toutes jambes sur la grande route qui menait au château, je ne tardai pas à rattraper les voitures dans lesquelles on avait entassé les enfants sur les parents. Ils étaient une quinzaine dans les deux calèches. Les calèches, ce sont des voitures à cheval. « Cadichon ! Voilà Cadichon !» s'écrièrent tous les enfants quand ils m'aperçurent. On fit arrêter les voitures. Jacques et Louis demandèrent à descendre pour m'embrasser, me complimenter et revenir à pied. Puis Jeanne et Henriette, puis Pierre et Henri, puis enfin Elisabeth, Madeleine et Camille. « Voyez-vous, disaient Louis et Jacques, que nous connaissons mieux que vous l'esprit de Cadichon. Voyez comme il a été intelligent, comme il a bien compris les tours de ce sot mirliflore et de son imbécile de maître. »« C'est vrai, dit Pierre, mais je voudrais bien savoir pourquoi il a absolument voulu mettre le bonnet d'âne au maître. Est-ce qu'il a compris que le maître était un sot et qu'un bonnet d'âne est le signe qui indique la sottise ?»«
Certainement, dit Camille, il l'a compris. » Il a bien assez d'esprit pour cela. Oh, 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 répondit Elisabeth, tu dis cela parce qu'il t'a donné le bouquet, comme à la plus jolie de l'assemblée. Pas du tout, dit Camille, je n'y pensais pas. Et à présent que tu m'en parles, je me souviens que j'ai été étonnée et que j'aurais voulu qu'il alla porter le bouquet à un moment. C'est elle qui était la plus belle de l'assemblée.
C'est toi qui la représentais, dit Pierre. Et puis je trouve, moi, qu'après ma tante, l'âne ne pouvait pas mieux choisir.
« Et moi donc ?» demanda Madeleine. « Et moi ? Est-ce que je suis laide ?»«
Certainement non, dit Pierre. Mais chacun a son goût et le goût de Cadichon lui a fait choisir Camille. »
Au lieu de parler de jolie ou de laide, nous devrions demander à Cadichon comment il a pu si bien comprendre ce que disait cet homme, dit alors Elisabeth. « Quel dommage que Cadichon ne puisse parler. Que d'histoires il nous raconterait, s'écria Henriette. Qui sait ? S'il ne nous comprend pas, dit Elisabeth, j'ai bien lu, moi, les mémoires d'une poupée. Est-ce qu'une poupée a l'air de voir et de comprendre ? Cette poupée a écrit qu'elle entendait tout, qu'elle voyait tout.
Est-ce que tu crois cela, toi ?
Certainement, je le crois, dit Elisabeth.
Comment la poupée a-t-elle pu écrire ?
Elle écrivait la nuit, avec une toute petite plume de colibri, et elle cachait ses mémoires sous son lit. Ne crois pas, dit Madeleine, de pareilles bêtises, ma pauvre Elisabeth. C'est une dame qui a écrit ses mémoires d'une poupée. Et pour rendre le livre plus amusant, elle a fait semblant d'être la poupée et d'écrire comme si elle était une poupée. Tu crois que ce n'est pas une vraie poupée qui a écrit, demanda Elisabeth. Certainement non, dit Camille. Comment veux-tu qu'une poupée qui n'est pas vivante, qui est faite en bois, en peau et remplie de sons, puisse réfléchir, voir, entendre, écrire ?
Fin de la deuxième piste de la quatrième cassette, page 152, Les mémoires d'un âne, par la comtesse de Ségur.